Il est mort Jim, lu par l'auteur, chapitre 9, épisode 60. À ce moment de mes pensées, nous étions toujours dans le premier cloître. Le jardin central comportait des palmiers, des arbustes et des fleurs. Il aurait été agréable de s'y asseoir pour interroger le père Machado si la brise froide et humide de l'hiver liménien ne l'avait pas interdit. Dans le second cloître, influencé par le style mudéjar, mort espagnol de la fin du Moyen-Âge, le prêtre me conduisit à une chapelle où reposaient les restes de San Martín de Porres. On y trouvait décidément les célébrités parmi les saints péruviens, car Santa Rosa de Lima y avait aussi sa crypte. La construction dédiée à San Martín était sur le lieu de l'ancienne infirmerie où le saint recevait des malades. C'était un métis, fils d'un noble espagnol et d'une esclave noire, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention dans un pays où les différenciations sociales suivent encore au XXIe siècle celle de la pigmentation de la peau. Je savais que San Martín était entré dans ce couvent pour effectuer les tâches domestiques les moins nobles. Que pouvait conduire un être humain à un tel sacrifice? Santa Rosa de Lima, quant à elle, se trouvait sous la salle capitulaire, là précisément, où les premiers étudiants de l'université San Marcos avaient leurs cours. Le père Machado rappela que, canonisée en 1671, elle était la première sainte du Nouveau Monde. Le jour de sa mort, c'était en 1617, son corps a été transporté de la rue du Capon, qui se trouve au bout du Jirón Ucayali, jusqu'à notre couvent. On raconte qu'une foule bigarrée avait envahi les rues, les balcons et les terrasses des 9 pâtés de maisons de distance. En quelque sorte, le star system existait déjà à l'époque, ajouta le prêtre malicieusement. À ce propos, il ne voulait pas manquer de présenter les petits studios de la radio qu'hébergeait le couvent, qui s'appelait justement Radio Santa Rosa. Oui, j'en avais entendu parler, je ne dis pas en quelles circonstances. Nous étions arrivés devant une porte beige foncée avec une affichette qui indiquait l'entrée de la radio. Avant de pénétrer dans le studio, j'entendis le son de la retransmission. Pendant que mon œil parcourait le lieu, je pus écouter le direct. Une table en formica placée devant la vitre séparait la partie technique du studio proprement dit, où se trouvaient les animateurs. Un technicien entre deux âges officiait. Les deux animateurs, un homme et une femme, installés dans le studio bleu-lait, n'étaient pas des ecclésiastiques. Ils étaient en tout cas habillés en laïcs. Ils adressaient apparemment des dédicaces de prière à des auditeurs ou quelque chose comme ça. Je ne voulus pas solliciter du père Machado une réponse qui finalement m'importait peu. Pendant que celui-ci parlait avec le technicien qu'il me présenta comme Carlos Venturini et auquel j'associais aussitôt le qualificatif « haut en couleur », je lus la programmation affichée sur un des murs glabres. Je constatais, surpris, qu'il y avait encore une émission en rapport avec la France le dimanche à 9h qui s'appelait « Amigos de Francia ». Le père Machado proposa que nous rendions à la bibliothèque du couvent, que j'admirerais sans doute, et où il pressentait que j'aimerais que se déroule l'entretien. Je n'aimais pas les enthousiasmes inutiles, mais ces bibliothèques, effectivement, m'emplit de sa grandeur. Le bois des rayonnages du parquet et du plafond brillait sous l'effet conjugué de la lumière des grandes fenêtres du fond de cette gigantesque salle rectangulaire et de l'éclairage artificiel. L'odeur d'encaustique, mêlée de l'humidité typique des maisons coloniales liméniennes et des demeures bourgeoises plus récentes, afflua à mes narines. Nous passâmes près de deux pupitres où reposaient deux grands livres, assurément très anciens. Le prêtre m'indiqua un fauteuil sur la grande table face à lui. Je le déplaçai avec difficulté pour m'y asseoir. L'église de la contre-réforme savait décidément impressionner ses fidèles. Normalement, à ce moment précis, je devrais prendre un air profond, dit le père Machado, et vous dire quelque chose comme « Alors, mon fils, quel secours l'église peut-elle vous apporter ?» Le petit moment de dérision contrastait avec la solennité du lieu et eut la vertu instantanée de me mettre mal à l'aise. Le prêtre facilita encore la discussion en mentionnant que Gertrudis l'avait informé de mes recherches. Il comprenait qu'un historien s'intéresse à la vie après la mort. Après tout, l'histoire des religions n'était pas assez enseignée, et particulièrement en Europe, n'est-ce pas ? La séparation de l'Église et de l'État n'avait pas favorisé en France cet enseignement, effectivement. « Je n'ai pas osé aller jusque-là, » répondit le père Machado, « mais puisque vous le dites, je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on soit laïque, ce peut même être saint, mais qu'est une vie sans transcendance ? Notre siècle a souvent un peu oublié, même si dans le passé on était croyant sans doute par habitude. Dans les siècles passés, on cherchait aussi des raisons d'espérer car on était assuré de ne pas rester bien longtemps dans ce bas monde, remarquai-je. Bien sûr, mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre que de par le monde, de nombreuses gens sont encore dans une telle situation d'insalubrité, de faim, de violence, que leur espérance ne dépasse guère celle des siècles passés en Occident. Ici même, oui mon père, ici même, avec l'aide de l'Église d'ailleurs.